Bonjour à toutes et à tous. Les échos du Congo-Brazzaville déroulent son tapis rouge et de la plus belle manière à Monsieur Thomas Charles Kunku, enseignant de philosophie à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville. Monsieur Thomas Charles Kunku, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi avoir pris la décision de créer une revue de philosophie?
Cette décision, je l'ai prise pour construire un espace de travail et de discussion, régi par les règles de compétence, de sérieux et surtout de probité intellectuelle, afin qu'une rencontre puisse se faire, s'organiser entre les philosophes congolais, mais aussi africains. Il s'est agi pour moi également de mettre à la disposition des doctorants et des jeunes docteurs une structure d'accueil pour leurs premiers travaux. Parce que c'est un drame, quand on a fini son doctorat, d'accéder à la publication. Et donc, cette revue a été conçue pour cela. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, ont vu que les trois quarts des contributions viennent des jeunes docteurs et des doctorants. Nous, les anciens, nous ne faisons là qu'accompagner. Il y a parfois un article de prof ou deux articles. Dans le premier, il y avait deux articles de mon collègue Bayakissa et de moi. Et dans le second, il n'y a qu'un article que j'ai signé. Tout le reste des articles est constitué par les travaux des jeunes docteurs et des doctorants. Donc, sur ce point, on peut être, dans une certaine mesure, rassuré, parce que la relève est là, elle est en marche, elle est en formation.
Une deuxième question, beaucoup plus philosophique, Monsieur Thomas Charles Kunku, pourquoi donner à cette revue le nom ou le prédicat de métaphysique?
Tout simplement parce que la question de la métaphysique occupe la philosophie contemporaine. Donc, il fallait d'emblée insérer cette revue dans la discussion philosophique contemporaine. J'ai d'ailleurs repris à Marx et Engels la métaphore du spectre pour dire que la métaphysique est un spectre qui hante la philosophie. C'est le fantôme qui hante la philosophie. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie contemporaine ne cesse de parler de métaphysique, souvent pour disqualifier la métaphysique. Ainsi, les deux courants principaux de la philosophie contemporaine, à savoir la phénoménologie et la philosophie analytique, n'évoquent la métaphysique que pour la disqualifier. Ainsi, un des pères de la philosophie analytique, Carnap, a prétendu au dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage. La métaphysique qu'il s'agissait pour lui de dépasser était la fameuse leçon inaugurale de Heidegger en 1929, quand il prend ses fonctions de professeur titulaire à Fribourg en Brisgau, après Husserl, et qu'il prononce la conférence « Qu'est-ce que la métaphysique ?». Donc cette conférence, elle a été combattue, critiquée, moquée par Carnap dans son célèbre article « Dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage ». Donc il voulait dire que la métaphysique était un discours qui était creux, qui ne voulait rien dire, qui n'avait pas de contenu, pas de sens, qui était totalement irrationnel. Et pourtant, face à toutes ces critiques, face à toutes ces tentatives de disqualification et même de négation de la métaphysique, tel un phénix, elle ne cesse de renaître de ses cendres. Ainsi, Husserl dit, je le cite, « Il y a une science de l'être au sens absolu, cette science que nous nommons métaphysique. » De même, un des principaux représentants français à l'heure actuelle de la philosophie analytique, Frédéric Neff, qui enseigne à l'EHESS, découvre le retour de la métaphysique dans un ouvrage important qu'il a écrit, « Qu'est-ce que la métaphysique ?». Il a d'ailleurs même publié les textes de métaphysique analytique, donc les principaux textes de métaphysique dans la philosophie analytique. Voilà les raisons qui nous ont conduit à donner à cette revue le nom de Cahier congolais de métaphysique.
Et pourquoi congolais?
Donc congolais, c'est un enracinement dans un lieu. Il faut toujours être posé quelque part. Et pour nous, le quelque part, le lieu, ce n'est pas nulle part, c'est un lieu, un site, c'est le Congo. Hein, pour dire que nous faisons de la philosophie en tant que Congolais, mais pas seulement pour les Congolais, pour tout le monde. Mais le lieu à partir duquel nous faisons la philosophie, ce lieu, c'est le Congo.
Enfin, parlons-en, Monsieur Thomas Charles Kunku. Votre article porte comme titre sur l'équivocité du cogito cartésien.
Si on lit attentivement Descartes et le cogito cartésien, on se rend très rapidement compte que le cogito cartésien n'est pas univoque, mais équivoque. C'est-à-dire que le cogito cartésien donne lieu à deux énoncés absolument distincts. Le premier énoncé, nous le connaissons tous, puisque c'est l'énoncé de 1637, qu'on trouve d'abord dans le discours de la méthode, « Je pense, donc je suis », et Descartes répète cet énoncé dans les réponses aux cinquièmes objections et dans les principes de la philosophie et dans l'entretien avec Burman. Simplement, dans les réponses aux secondes objections, la formulation de ce premier énoncé change quelque peu. Il dit « Je pense donc je suis ou j'existe ». À côté de ce premier énoncé du cogito, il y a un second énoncé auquel, à part les spécialistes, on ne prête pas beaucoup attention. Cet énoncé, on ne le trouve que dans les méditations. Les méditations, comme l'a traduit le duc de Luynes, touchant la première philosophie. Ça, c'était le titre latin, Meditationes de prima philosophie. Et quand le duc de Luynes traduit, il ajoute un terme qui n'existait pas dans l'original latin, à savoir méditation métaphysique. Et depuis, on s'est habitué à appeler les méditations méditation métaphysique. Alors que Descartes, quand il publie, les méditations ne comportent pas le prédicat métaphysique. C'est le duc de Luynes qui l'insère. Et comme Descartes approuve, parce que Descartes, le duc de Luynes, soumet la traduction des méditations à Descartes. Et Descartes l'approuve. Donc Descartes valide que de la version latine à la version française, il y a une différence désormais. Les méditations de philosophie touchant la philosophie première, comme on le dit, deviennent méditations métaphysiques. Dans les méditations métaphysiques, le cogito est énoncé de la manière suivante. Je suis, j'existe. Il est énoncé deux fois dans la seconde méditation. Je suis, j'existe. Tout le monde a noté immédiatement la disparition du cogito. Et pourtant, cet énoncé conserve le titre de énoncé du cogito. Je me propose dans mon article d'appeler le premier énoncé, je pense donc je suis, l'énoncé courant du cogito. Quand je faisais mon cours de master à l'université de Brazzaville, j'avais dit que c'était l'énoncé vulgaire du cogito. Pour une raison simple, parce que Descartes, dans la lettre de 1637 à Mersenne, explique, respectant le français de l'époque, il le dit qu'à cause que j'ai écrit en langue vulgaire, la langue vulgaire, c'était le français, par opposition à la langue savante qui était le latin. Le français n'était qu'un, on dirait chez nous, un patois. N'était qu'un patois. Ce n'était pas les gens cultivés, les philosophes n'écrivaient pas en français. Ils écrivaient en latin. Donc, il dit, mais pour le grand public, il fallait écrire dans une langue que tout le monde pouvait comprendre, à savoir le français. C'est pour ça qu'il dit qu'à cause que j'ai écrit en langue vulgaire. Il dit, par contre, les méditations écrites en latin parce qu'elles sont destinées à un public plus cultivé, plus instruit, etc. Je suis revenu sur cette distinction qui pouvait paraître plus choquante en procédant à un euphémisme en disant simplement l'énoncé courant, présent de manière courante, puisqu'on trouve cet énoncé, je l'ai dit, dans le discours de la méthode, dans les réponses aux cinquièmes objections, dans les principes de la philosophie et dans l'entretien avec Burman. Donc, c'est un énoncé fréquent et par conséquent courant. L'autre énoncé, je l'appelle l'énoncé immédiat. Pourquoi immédiat ? Parce que il n'y a aucun écart entre les deux membres de l'énoncé. Je suis, j'existe. Mais cela va poser un autre problème. Alors que dans l'énoncé courant, je pense, donc je suis, on voit bien qu'il y a un problème, hein, ne serait-ce que par la préposition « donc » qui introduit ce qui sera au centre de la première difficulté que je vais noter, difficulté à laquelle Descartes lui-même avait déjà fait face, qu'il avait dû affronter à plusieurs reprises. Voilà, le cadre est tracé. Deux énoncés distincts du cogito. L'énoncé que nous connaissons tous, je pense donc je suis, qui est l'énoncé courant, et l'énoncé immédiat, je suis, j'existe. Mon but dans mon article, c'était de revisiter, comme on dit maintenant, deux difficultés principales donc de la philosophie cartésienne à la lumière de cette distinction des deux énoncés du cogito. Ces deux difficultés sont d'abord l'objection du syllogisme, hein, puisque tout le monde a compris, je pense donc je suis, peut s'apparenter à la conclusion d'un syllogisme. Descartes l'a prise tout à fait au sérieux parce qu'il a consacré du temps à répondre à cette objection, l'objection du syllogisme. La deuxième difficulté, qui n'est pas une objection en réalité, qui relève de la qualification du cogito, c'est la difficulté relative au caractère performatif du cogito. Bon, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Une digression. En 1962, à Cambridge, je crois, un philosophe très très fort, très puissant anglais, John Austin, écrit un ouvrage qu'on a traduit, « Quand dire, c'est faire ». Cet ouvrage consiste à dire qu'il y a des énoncés qui impliquent une action. C'est-à-dire quand le maire ou le prêtre dit « Je vous déclare marié ». C'est une simple phrase, mais qui implique une action, à savoir que désormais, vous êtes unis. Et ça, cela est accepté, etc. Ça devient une réalité. Alors que ce n'est qu'un énoncé, ce qu'on appelait un énoncé performatif, un énoncé qui implique une action. La deuxième difficulté du cogito est relative à la dimension performative du cogito. Et c'est un philosophe finlandais, philosophe analytique finlandais, Jaakko Intikka, qui est un très très grand philosophe dans le monde anglo-saxon, a immédiatement utilisé les résultats du formidable travail philosophique de John Austin en appréhendant le cogito cartésien comme un performatif. Je pense donc je suis, à ses yeux, fonctionner comme un performatif. C'est-à-dire que quand je dis je pense donc je suis, ça implique la réalité de mon existence. Je pense donc je suis pourrait s'apparenter à la conclusion d'un syllogisme. Un syllogisme dont la majeure devrait être alors la suivante. Tout ce qui pense est. Tout ce qui pense est ou existe. Or, cette majeure dépend du cogito. Parce que cette majeure, tout ce qui pense est, ne peut être établi que si j'existe. Par conséquent, le cogito ne peut pas être une déduction. Ne peut pas fonctionner comme un syllogisme. Dès que je dis « je pense », si je ne suis pas, je ne peux pas penser. Par conséquent, l'existence n'est pas déduite de la pensée au moyen d'un syllogisme, mais l'existence est affirmée de manière immédiate.
Monsieur Thomas-Charles Kunkun, nous vous disons infiniment merci et surtout au plein succès.
Je vous remercie.